Vous êtes chef d'entreprise artisanale ou conjoint de chef d'entreprise artisanale et vous êtes non salarié?
Vous souhaitez acquérir de nouveaux savoir-faire, améliorer la gestion de votre entreprise ou encore gagner en visibilité digitale?
Le FAFCEA vous accompagne financièrement dans vos projets de formation.
Rendez-vous sur le site fafcea.com ou contactez l'organisation professionnelle représentative de votre métier pour vous aider dans vos démarches.
Vous écoutez
RMC. RMC, 5h-6h, Charles Matin,
Anaïs Castagna.
Bonjour à tous, nous sommes le mardi 9 août, vous écoutez Charles Matin, je suis ravie de vous retrouver. Je voulais commencer cette émission en musique parce que c'est une star qui a marqué des générations qui nous a quittés. Olivia Newton-John, qui est la star de Grease, elle se battait contre un cancer du sein depuis des années. On va revenir sur sa carrière dans le journal de Stéphane Genest dans un instant. Et si vous voulez lui rendre hommage, 32-16, je vous attends ce matin sur RMC. Au sommaire également ce matin. Les crèches vont pouvoir recruter du personnel non diplômé pour faire face au manque de main-d'œuvre. La moitié des établissements français sont touchés. On en avait beaucoup parlé en juin dernier après la mort d'une petite fille de 11 mois dans une crèche People and Baby de Lyon. Après le drame, les langues s'étaient déliées, les témoignages s'étaient multipliés, les salariés affirmaient qu'ils n'étaient pas assez pour pouvoir s'occuper correctement des enfants. Alors, est-ce que c'est la bonne solution ou pas? Est-ce que ça vous inquiète? Vous réagissez au 32-16 sur l'application Direct Studio et la page Facebook Bourdin Direct. On verra ce que dit concrètement le décret qui va entrer en vigueur à la fin du mois. Et puis, je voudrais vous entendre, vous, à la fois les parents et les professionnels de la petite enfance ce matin au 32-16. On va reparler aussi ce matin des rodéos urbains. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, assure vouloir intensifier les contrôles de police. Après ce qu'il s'est passé vendredi à Pontoise, deux enfants de 10 et 11 ans fauchés par une moto, un homme mis en examen. La peine pour un rodéo urbain peut aller jusqu'à 5 ans de prison, mais visiblement ça ne suffit pas. Le ministre de l'Intérieur souhaite renforcer les sanctions. On y reviendra et je vous attends également sur ça ce matin. Je voudrais entendre vos témoignages. Vous habitez dans une ville où les rodéos se multiplient. Je vous donne la parole. Venez nous raconter ce que vous vivez au quotidien et ce qui a été fait, surtout dans votre municipalité. Il est 4h59. Vous écoutez RMC. L'actualité, c'est aussi la météo avec Anthony Kazmarek. Bonjour Anthony.
Bonjour Anaïs. Bonjour à tous.
Il a fait chaud cette nuit. Les températures vont encore monter. Et d'ailleurs, on va gagner 1 à 2 degrés par jour jusqu'à vendredi. C'est pas fini.
Exactement, ça commence déjà ce matin. On est entre 13 et 19 degrés au nord, 15 à 22 dans le sud, jusqu'à 28 même à 7 dans l'Hérault. Et dans l'après-midi, comptez généralement sur 29 à 33 degrés dans la moitié nord, un petit peu moins près de la Manche. Il fera 29 à Lille, 32 à Paris, à Strasbourg et à Rennes, 33 à Nantes et à Bourges, 34 à 38 très souvent dans le sud, 34 à Lyon ainsi qu'à Limoges, 36 à Bordeaux et à Agen, 37 à Toulouse, jusqu'à 38 à Mont-de-Marsan, toujours sous le soleil avec à peine quelques orages en fin de journée sur les Alpes, les Pyrénées et la montagne Corse.
Vous nous envoyez vos températures sur Direct Studio. Damien nous dit qu'il fait 19 degrés à Limoges. Allez-y, j'attends tous vos messages. Merci beaucoup Anthony.
Votre météo en toute sérénité avec Verisure. Verisure, le numéro 1 des alarmes et caméras avec protection 24h sur 24. Mardi 9 août,
l'info sur RMC.
RMC 5h, c'est l'heure du journal de Stéphane Genest. Bonjour Stéphane.
Bonjour Anaïs, bonjour à toutes et à tous. Et à la une, la résidence de Donald Trump perquisitionnée cette nuit par le FBI. Gérald Darmanin qui promet 10 000 contrôles de police rien que ce mois-ci pour limiter les rodéos urbains. Et Monaco qui joue sa dernière carte ce soir pour continuer de rêver à la Ligue des Champions.
La résidence de Donald Trump perquisitionnée cette nuit, c'est l'ancien président lui-même qui l'a annoncé.
Le FBI qui s'est rendu dans la célèbre résidence de Floride, Mar-a-Lago, pour cette perquisition résidence de Donald Trump. Il n'était pas chez lui, mais ça n'a pas évidemment empêché de réagir. Il dénonce une persécution politique, Garance Munoz.
Oui, dans un communiqué, Donald Trump s'indigne. Notre nation vit des jours sombres. Ils ont même forcé mon coffre-fort, s'est-il exclamé. Selon les médias américains, cette perquisition relève d'une enquête en cours sur la mauvaise gestion de documents classifiés. En février dernier, déjà, les archives nationales avaient récupéré 15 cartons de documents que Donald Trump avait emportés à son départ de la Maison Blanche. Dans ces boîtes, des lettres de Barack Obama et de Kim Jong-un, mais aussi des documents classés secret défense. Or, aux États-Unis, le président n'a pas le droit de conserver des documents après son mandat, d'autant que Donald Trump est soupçonné d'avoir déjà voulu se débarrasser d'éléments compromettants durant sa présidence. Le personnel de la Maison Blanche trouvait régulièrement des liasses de papier bouchant les toilettes, d'après un journaliste du New York Times.
Et précision, signée Garance Munoz pour RMC. Merci beaucoup, Garance.
5h02, Gérald Darmanin, je le disais, promet une intensification des contrôles pour limiter le fléau des rodéos urbains.
Une promesse de 10 000 contrôles, rien que pour le mois d'août. Un chiffre annoncé après le drame de Pontoise où vendredi soir, deux enfants ont été percutés par une moto. Le suspect a d'ailleurs été mis en examen et placé en détention provisoire. Et la collision de deux jeunes motards dimanche, c'était en Gironde. Alors, si le ministre de l'Intérieur souhaite intensifier les contrôles de police, il est tout de même difficile pour les forces de l'ordre de faire face à ce problème. C'est en tout cas ce qu'estime Jérôme Moisan, le secrétaire général adjoint Unité SGP Police.
La police est rompue à jour d'exercice. Bien sûr que les 10 000 seront atteints. Après, on reste à savoir quelle efficacité ils auront, puisque ces rodéos sont plus ou moins inopinés. On manque un peu de moyens pour les appréhender. Il faut multiplier les moyens d'identifier ces personnes. On profite de la vidéosurveillance qui est développée par pas mal de municipalités. Et puis, confisquer dès qu'on le peut, parce que, évidemment, sans deux roues, c'est plus compliqué d'en faire.
Quelle solution pour faire face à ce fléau des rodéos urbains? Est-ce que la réponse de l'exécutif est à la hauteur? Vous nous dites ce matin au 32-16. J'attends évidemment vos témoignages. Stanislas Godon, délégué général du syndicat de police Alliance, sera avec nous en plateau à 7h40 sur RMC.
La justice marocaine a rendu un avis favorable à l'extradition de Sébastien Raout vers les États-Unis. Ce jeune Français de 21 ans, arrêté fin mai à Rabat alors qu'il était en vacances, est recherché par la justice américaine. Il est soupçonné de cyberpiraterie contre des grandes entreprises comme Microsoft. Et s'il est extradé vers les États-Unis puis déclaré coupable, il risque 116 ans de prison. Le père de Sébastien Raout réclame corps et âme que son fils soit traité par la justice française.
Comment mon fils peut-il défendre son droit à 8000 km de là, alors que toutes les preuves sont en France? Certaines personnes diraient c'est mon fils, lui dit non, c'est pas moi, c'est les autres. Comment on fait pour les confronter? Non, un procès en Amérique ne sera pas juste. Il est temps maintenant que la France reprenne la main sur ce dossier. Un ressortissant français, qu'il soit coupable ou non, la question n'est plus là. La question, c'est de savoir si la France est coupable de déni de justice, si elle est coupable d'abandonner un de ses ressortissants.
On en vient à ces incendies qui continuent de faire rage dans le pays.
Dont important entre la Lozère et l'Aveyron, 650 hectares de brûlés, 400 pompiers sur place, une quarantaine de personnes évacuées. L'incendie n'est quant à lui toujours pas fixé. La sécheresse et la chaleur qui ne vont d'ailleurs pas arranger les choses. Quatre départements sont toujours en vigilance orange canicule, à savoir la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Gard et le Vaucluse. Et difficile pour les campeurs de vivre avec cette chaleur, puisque vous imaginez bien, avec 35 degrés en plein après-midi, l'air dans la tente doit être étouffant, comme dans ce camping où l'on fait ce qu'on peut pour vivre avec cette chaleur. Clémence Fournival.
Depuis 13 ans, Nathalie et sa famille venue de Belgique installent leur caravane au camping de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Mais cette année, les fortes températures rendent le séjour moins confortable.
Le sommeil, ça peut aller avec le ventilateur, mais la chaleur le soir, quand on rentre, parfois il y a 41 degrés. Et donc c'est un peu compliqué. Mais bon, avec les stores, on ouvre facilement le soir pour donner de l'air. Et la journée, je ferme tout.
Une cinquantaine de kilomètres plus loin à Aubagne, Rose et son mari montent leur campement sous 34 degrés et ils ont chaud.
Là, pour l'instant, ça gâche un peu les vacances, le temps d'installer la tente. Mais sinon, on va faire avec, quoi. Il n'y a pas le choix. Mais c'est vrai que ça donne une certaine appréhension quand même.
Quelques emplacements plus loin, Catherine, venue du Nord, n'est pas gênée par les fortes températures.
Non, la chaleur, ça ne dérange pas du tout. Non, on apprécie la chaleur. Sous la tente, on met un petit ventilateur pour être bien et puis voilà.
Pour profiter pleinement de leurs vacances, certains comme Joël ont décidé de sortir en fin d'après-midi.
Que le soir, on se couche pas de bonne heure, on profite de la fraîcheur et on joue au tarot.
Et pour lutter contre la chaleur dans les mobil-homes, les campeurs apprécient toujours un bon bain dans la piscine au son des cigales.
On pense évidemment à ceux qui sont en vacances et qui sont au camping infernal, j'imagine, sous la tente. Oui. Je pense évidemment ce matin à tous ceux qui sont dans le sud, notamment ceux qui vivent du côté de Nîmes, qui viennent de vivre à peu près 40 jours au-dessus de 30 degrés. J'imagine que sur place, on n'en peut plus.
C'est plus des vacances à la
fin. On attend exactement vos témoignages ce matin, là aussi sur RMC. Le foot et Monaco n'a pas le droit à l'erreur ce soir.
Les Monégasques qui affrontent les Néerlandais du PSV à Eindhoven en match retour de troisième tour de qualification pour les barrages de la Ligue des Champions. À l'aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un score de 1 partout et l'entraîneur du club de la Principauté, Philippe Clément, l'assure, ces joueurs sont déterminés à se qualifier.
Nous n'avons pas besoin plus de confiance, la confiance est là, mais aussi le réalisme. C'est une bonne équipe, PSV, ils ont montré, ils ont une force offensive très grande, mais nous sommes aussi conscients de nos qualités. Les joueurs, ils ont travaillé vraiment fort les dernières semaines, les derniers mois pour être prêts. Nous sommes très déterminés pour nous qualifier.
PSV Eindhoven Monaco, c'est à 20h30 et c'est à suivre évidemment en direct sur RMC.
Et enfin, sa voix a bercé des générations entières de cinéphiles et de mélomanes.
La voix d'Olivia Newton-John, la chanteuse et actrice américaine, s'est éteinte à l'âge de 73 ans. Alors si vous avez vu Grease, vous vous souvenez certainement de Sandy en duo avec John Travolta.
Bien sûr.
Retour sur le parcours d'une héroïne singulière avec Romain Cluzel.
Une veste en cuir et quelques pas de rock, la consécration arrive en 1978 pour Olivia Newton-John avec la comédie musicale Grease. Son duo avec John Travolta attire plus de 5 millions de personnes dans les cinémas français. Née en Angleterre, elle grandit en Australie. Elle commence sa carrière dans les années 60 et participe à l'Eurovision pour la Grande-Bretagne en 1974. Elle finit quatrième derrière le groupe suédois ABBA qui remporte le concours. La reine Elisabeth II la décore de l'ordre de l'Empire britannique en 1979. Et deux ans plus tard, elle connaît son plus grand succès en solo avec le titre « Physical ». Olivia Newton-John décède d'un cancer du sein. Elle contracte la maladie une première fois en 1992 et s'engage dans la lutte contre le cancer. Elle fait ensuite deux rechutes, la première en 2013 et la seconde en 2017.
Et voilà, on finit en musique, Anaïs, avec cet hommage à Olivia Newton-John.
Tu as vu Grease ? Non, sois honnête.
Absolument pas, mais je connais les musiques.
Évidemment. Moi non plus, je ne l'ai pas dit. Hein. Je vous dis tout. Je ne l'ai pas vu. En revanche...
Parce qu'on est trop jeune.
Ah,
on est trop jeune, c'est pour ça.
Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je crois que Sébastien Krebs, lui, l'a vu, il nous racontera.
Parce qu'il est plus vieux.
Alors, je ne sais pas. Quel âge il a, à ton avis, Sébastien Krebs ?
Oh, une bonne quarantaine, ouais.
Écoute, on va en parler tout à l'heure avec lui. Peut-être qu'il aura quelques comptes à régler avec toi. Je ne l'ai pas vu, mais je dois vous confier quelque chose. J'ai déjà dû faire Sandy sur la piste de danse.
Ah bah évidemment.
Évidemment.
Ah. Et moi, John Travolta, évidemment.
Si vous avez envie de lui rendre hommage, en tout cas ce matin, le standard vous est ouvert. Merci beaucoup, Stéphane Jeunesse. On te retrouve dans moins d'une heure avec toute l'équipe. Allez, c'est l'heure de jouer. À tout à l'heure.
RMC, la voix du jour.
À la voix du jour, c'est cette voix qui vous permet de commencer la journée avec des beaux cadeaux. Je vous rappelle le principe, il faut tendre l'oreille pour reconnaître la voix de cette personnalité.
Je souhaite qu'il y ait 10 000 opérations de contrôle à partir d'aujourd'hui partout sur le territoire national pour lutter contre ces actes criminels de gens qui prennent la route pour leur route et qui viennent à assassiner des enfants. Il n'y a pas d'autre mot.
Alors un indice, il est ministre de l'Intérieur et il a promis de renforcer les contrôles pour mettre un terme au fléau des rodéos urbains. C'est un de nos grands sujets ce matin. Si vous avez trouvé, vous repartirez peut-être avec une montre Icewatch Solar Power qui se recharge à la lumière naturelle et artificielle. Pour cela, c'est simple. Pour faire le 32-16, bonne chance à vous. À suivre dans Charles Matin, notre débat du jour. Le gouvernement a-t-il raison de faciliter le recrutement de personnel sans diplôme dans les crèches pour renforcer les équipes ? Est-ce réellement une bonne idée de permettre à des gens qui ne sont pas diplômés de pouvoir être aux côtés de nos enfants ? Je vous attends au 32-16 et sur l'application Direct Studio. On y revient dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 6h. Charles Matin.
Anaïs Castagna.
Le gouvernement a-t-il raison de faciliter le recrutement de personnel sans diplôme dans les crèches françaises ?
C'est la question du jour sur RMC.
C'est un arrêté ministériel qui suscite la controverse parmi les professionnels de la petite enfance. Alors que la moitié des crèches font face à un manque de personnel, celles-ci pourront bientôt recruter des personnes qui ne sont pas diplômées. Solution qui a été trouvée pour faire face au manque de personnel dans ces crèches, puisque les professionnels se plaignaient. On en avait pas mal parlé sur RMC après ce drame dans une crèche lyonnaise. Une fillette de 11 mois avait été tuée. L'avocat de la jeune femme de 27 ans qui a reconnu avoir donné du desktop à un bébé dans une crèche de Lyon estime qu'elle était trop fragile pour se retrouver seule avec un enfant. Ce qui s'est passé, ça avait suscité beaucoup d'émotions, les langues s'étaient déliées et les professionnels avaient fait part de leurs difficultés à travailler correctement dans de bonnes conditions. Ils n'étaient pas assez, c'est ce qu'ils disaient à l'époque. Vous nous dites quelle est la solution ce matin sur RMC. Évidemment, on vous attend. Quelle est la solution pour qu'un maximum d'enfants puissent être accueillis en toute sécurité, évidemment. Est-ce qu'il faut faciliter le recrutement du personnel chargé de s'occuper de nos enfants? Eh bien, on a posé la question aux professionnels. Écoutez ce qu'il en ressort. C'est un reportage de Florian Chevalet.
Cette possibilité donnée aux crèches d'embaucher des personnes non qualifiées sera forcément source d'inquiétude selon Françoise Brenienec, animatrice au sein de la Maison des 1000 jours, association qui vient en aide aux parents.
Les parents, quand ils confient leur enfant dans une crèche, c'est vrai qu'ils ont à cœur d'être écoutés, que leur enfant soit bien pris en charge, bien accompagné. Et c'est vrai que ça demande quand même une formation à l'écoute, à l'accueil. Donc je pense que des personnes non qualifiées vont avoir du mal à répondre aux angoisses des parents.
Et puis la préoccupation première reste l'enfant, son développement personnel. Nathalie Casso-Vicarini est fondatrice de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance.
Il y a des fondamentaux à connaître sur le développement de l'enfant qui bougent tout le temps. En plus, les connaissances scientifiques sur le sommeil, l'impact des écrans, etc. Tout ça, c'est à connaître. Ce sont des professionnels qui ne sont pas formés, qui n'ont pas ces connaissances-là. Accompagner l'enfant, ça nécessite beaucoup, beaucoup de compétences. On ne devient pas professionnel comme ça.
Mais attention, le décret prévoit quand même des conditions pour qu'une structure puisse embaucher du personnel non qualifié. Seulement une personne par crèche sera autorisée à travailler sans avoir les diplômes. Elle devra être formée et dans un premier temps forcément accompagnée d'un professionnel. De quoi rassurer Elsa Hervy, déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèche.
On ne va pas remplacer tous les professionnels de la petite enfance par des gens non diplômés. La petite dérogation créée par l'arrêté du 4 août ne réglera pas du tout le problème de la pénurie. Il sécurise juste des procédures aujourd'hui faites de manière exceptionnelle en posant des règles nationales.
Pour régler justement le problème de la pénurie, il faudra, selon elle, ouvrir massivement des places de formation dans toutes les régions. Éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture ou infirmiers, il manquerait environ 10 000 professionnels dans les crèches aujourd'hui en France.
Bon, ce qu'on entend, c'est qu'il y a quand même des conditions pour pouvoir recruter ce personnel non diplômé. Seulement une personne par crèche. Elle sera formée par le personnel. J'attends de voir là aussi comment ça va se passer parce que ça prend du temps de former quelqu'un. C'est pas donné à tout le monde. Dites-nous ce que vous en pensez. Je vous attends au 3216 sur l'application Direct Studio et sur la page Facebook Les Matins d'RMC. C'est l'heure de notre nouveau rendez-vous.
Les artisans de nos régions.
C'est votre rendez-vous de la semaine. La chronique donc des artisans cap ce matin sur l'une des deux dernières fonderies en France à fabriquer des cloches à Villedieu-les-Poêles, dans le département de la Manche. Ça fait 150 ans que la maison Corny-Yavard continue de mouler celles qui rythment parfois encore nos vies. Les cloches, travail d'orfèvre réalisé entièrement à la main. Vous allez l'entendre, c'est un reportage d'Alfred Orange.
Ici, pour trouver la fonderie, suffit de tendre l'oreille. Donc là, on est en plein cœur du village de Villedieu-les-Poêles et on arrive dans un bâtiment en briques qui sent le charbon, un atelier immense où je vais retrouver Paul Bergamo.
Je dirige la fonderie de cloches Corny-Yavard à Villedieu. Là, on est dans un atelier qui a un petit peu plus de 150 ans, puisqu'il a été construit en 1865. Ça correspond à l'arrivée du chemin de fer à Villedieu, qui nous a permis de nous sédentariser, d'envoyer des cloches dans le monde entier.
Sous ces charpentes, ça fait un siècle et demi qu'on crée des moules faits d'argile et de crottin de cheval, et ensuite on y verse du métal en fusion à 1100 degrés.
Il y a un temps de séchage incompressible qui fait qu'on s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire que pour faire une cloche comme celle qui est devant nous, qui va peser à peu près 350 kg, kilos, ça va s'étaler à peu près sur 6 semaines.
Ces cloches, on peut les entendre à Notre-Dame de Paris, même au Vietnam ou au Texas. Derrière cette production, il y a 3 jeunes qui n'ont pas encore 30 ans. Quentin est l'un d'eux.
C'est quelque chose qui rythme la vie, qui va durer et sonner. Donc c'est faire de l'objet d'exception. C'est un peu écrire l'histoire de la fonderie à chaque cloche qu'on fond au sein de l'atelier.
Avec son équipe, ils produisent une centaine de cloches par an.
J'ai récupéré de la transmission de personnes qui sont maintenant retraitées, qui avaient 40 ans d'entreprise. Donc c'est vrai que c'est une fierté aussi de se dire que ces personnes-là ont transmis et que par la suite, ça va être à moi et mon rôle de retransmettre ce savoir-faire aux futurs qui arriveront derrière.
Ah tiens, il y a aussi des visites guidées tous les quarts d'heure ici.
Moi, c'est Léna, je vais être votre guide, et je vais vous montrer comment on fabrique les cloches. Pour chaque cloche que l'on va faire, on va d'abord fabriquer un moule.
Quel est votre prénom, madame ?
Cathy. On vient de Charleroi. Ça fait plus ou moins 6 heures de route. Oui, c'est très beau à voir. La sonorité, les différentes façons d'avoir une cloche, le son et tout, c'est très très beau.
C'est mieux celui-là.
C'est les dessins, en fait.
Elle est gravée.
Ouais. On prend celle-là ?
Voilà.
Très bonne journée, merci de votre visite. Merci. Et bon séjour dans la journée.
Merci.
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 Au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.
C'est un savoir-faire incroyable, d'autant qu'ils font tout, ils produisent les cloches, ils les installent, ils s'en occupent. Ça rythme notre vie, dans nos villes, nos villages. Merci beaucoup Alfred Orange pour cette belle découverte ce matin. On en vient à nos débats du jour. Il y a 2 sujets sur lesquels je voudrais vous entendre ce matin. Les rodéos urbains d'abord. Après le drame de vendredi, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, assure vouloir intensifier les contrôles de police. 10 000 contrôles de police seront mis en œuvre sur tout le territoire. Donc c'est ce qu'il a annoncé hier. Il veut aussi durcir les sanctions. Est-ce que l'exécutif en fait assez ? Vous nous dites au 32-16 et puis venez nous raconter ce que vous voyez aussi ce matin. On va aussi parler du manque de main-d'œuvre dans les crèches. Le gouvernement va faciliter le recrutement pour y faire face. Des personnes non diplômées vont pouvoir être employées dans les crèches collectives à partir de la fin du mois. Dites-nous si ça vous inquiète. Je vous attends et on y revient dans un instant. Et puis après la pub, il y aura aussi les insolites de Quentin. A tout de suite sur RMC. Vous êtes sur RMC, il est 5h20 à la une ce matin. Le témoignage de cet enfant de 12 ans ce matin sur RMC. Un héros qui a sauvé toute une famille de la noyade dimanche soir à Biarritz. Et il était en train de faire du bodyboard quand il a entendu des appels à l'aide. Écoutez.
En attendant les sauveteurs, je les ai ramenés le plus que je pouvais. J'ai vu qu'il y avait énormément de courant, il y avait la planche qui était reliée à une corde. Et on était 6 à se relayer pour les tirer du coup.
Son témoignage à suivre dans le journal de 5h30. Le coup d'envoi demain de l'expérimentation en pharmacie de la vaccination contre la variole du singe. Elles auront lieu dans 5 officines situées en Île-de-France, en région PACA et dans les Hauts-de-France. On y reviendra également. Et puis Olivia Newton-John, la star du film Grease, est morte à l'âge de 73 ans. Elle avait un cancer du sein. John Travolta, son partenaire dans Grease, lui a rendu un vibrant hommage dans un communiqué sur Instagram hier. Tu as rendu nos vies meilleures. Ton influence a été incroyable. Je t'aime tant, a-t-il écrit. La météo du jour avec Anthony Kazmarek. Ça monte encore là.
Effectivement, les températures gagnent encore 1-2 degrés par rapport à hier. On sera entre 28 et 34 degrés sur la moitié nord aujourd'hui, un petit peu moins près des plages de la Manche. Et souvent de 34 à 38 dans le sud. Il fera 27 à Brest, 28 à Lille, 31 à Nice, 32 à Paris et à Strasbourg, 34 à Lyon, Grenoble et La Rochelle, 36 à Bordeaux et Agen, 37 à Toulouse et à Nîmes. Toujours 4 départements en vigilance orange canicule, le Gard, le Vaucluse, la Gironde, le Lot et Garonne. Cette journée va encore se passer sous le soleil avec du vent dans la moitié nord et quelques orages en fin de journée sur les Pyrénées, les Alpes et la montagne Corse.
Merci beaucoup Anthony, c'est l'heure des insolites de Quentin.
Les insolites de Quentin.
Bonjour Quentin Dubois.
Bonjour à tous.
Et comment ça va ce matin ?
Bah, ça va très bien et toi ?
Bah oui, très bien, t'as repéré quelques petites histoires qui vont retenir notre attention, qui vont nous faire parler ce matin, la machine à café. D'abord, elle lance une fausse alerte terroriste pour partir plutôt du travail.
Eh oui, tout arrive. Elle s'appelle Jania Williams, elle a 18 ans. Elle travaille au festival Lollapalooza Chicago qui se tenait du jeudi 28 au 31 juillet dernier en tant qu'agent de sécurité. Et pour qu'ils aient le travail plus tôt, elle a eu une idée, inventer une fausse menace terroriste.
Comment elle a fait ça?
Alors vendredi 29 juillet dans l'après-midi du deuxième jour du festival, vers 15h, l'un des organisateurs a reçu un message anonyme indiquant qu'une fusillade était prévue à 16h au sein du festival. Sans attendre, il a contacté la police de Chicago.
Mais c'est hyper risqué de faire ça.
Ah bah surtout juste pour une raison comme ça.
Bah oui.
Donc en gros, la police a été prévenue, le FBI, une heure se passe, pas d'attaque. Vers 16h15, le directeur du festival a informé toute l'équipe de la menace. Et à ce moment-là, Jania a dit à son patron que sa sœur avait vu passer un message similaire sur Facebook. Le chef de la sécurité lui demande donc de lui envoyer une capture d'écran du dit message. Sauf que le message n'existant pas, elle a dû créer un faux profil pour le publier. Et comme leur tourne, elle a précisé dans celui-ci qu'il y aurait une fusillade massive au festival, cette fois-ci vers 18h.
Comment est-ce que les forces de l'ordre s'en sont rendues compte?
Alors les enquêteurs ont vite relié l'adresse IP du téléphone via lequel ont été envoyés le faux SMS et la publication Facebook. C'est une adresse unique propre à chaque téléphone, ce qui a permis de retracer le compte iCloud, compte auquel est relié le téléphone de Jania, et donc sa vraie identité.
Oh là là, j'imagine qu'elle risque gros. Enfin...
Bah, là, pour le coup, elle a été jugée au tribunal hier, on n'a pas encore la sentence, mais ouais. Elle était en prison avec une caution de 50 000 euros d'amende.
Ah ouais.
Et oui, à mon avis, elle devrait faire un petit peu de prison.
Ouais, donc si
si vous voulez quitter le boulot, hein, le mal de ventre ou l'excuse de la grand-mère malade, ça reste la base.
Ouais. Un couple de Belges attend un heureux événement pour la 12e fois.
Oui.
Oh là là.
Oui, Gwenny a 32 ans et Marino 39 ans. Ils habitent à Staden en Flandre occidentale et vont avoir leur 12e enfant en avril prochain. C'est un boulot à plein temps et pour les prénoms, ça a été aussi un sacré travail, mais ils ont une astuce. Alors, pas sûr que ce soit la plus simple. Ils ont trouvé une idée, appeler leurs enfants avec les mêmes 4 lettres, A, E, L et X, assemblés dans un ordre différent. Alors, je vous donne les prénoms des enfants par ordre de naissance, sachant que le plus vieux a 13 ans. Et le plus jeune, 6 mois. Pour le moment, ils ont déjà trouvé Alex, Axel, Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla, Léax, Xal et Lax. Et
pardon. C'est n'importe quoi.
Alex.
Elax, Xal, Léax. Non mais c'est n'importe quoi. Non mais c'est n'importe quoi. Tu sais pourquoi? Parce que là ils se sont tapés un délire. Bon, c'est bien rigolo. Ils se sont marrés. Mais faut penser aux enfants. C'est ridicule.
Bah, disons que les premiers arrivés sont les mieux servis, quoi. Alex et Axel. Après les autres, c'est clair que c'est dur à trouver.
Est-ce qu'il y a encore des possibilités?
Ouais. Alors il y a 24 possibilités.
Ah bon?
Alors au total, hein, avec les 4 lettres. Donc là ils en ont la moitié là. Donc il leur reste 12 possibilités. Le prochain bébé qu'ils vont avoir, ce sera un garçon. Ils auront donc 7 filles et 5 garçons. Ils n'ont pas encore de prénom. Ils n'ont pas encore donné le prénom. Je pense qu'ils sont encore en train d'y réfléchir, honnêtement.
Bon, on suivra ça. Merci beaucoup, Quentin. Tiens, moi aussi, je voulais vous parler de ce qu'il se passe en ce moment à Étretat. Les habitants en ont marre, des fans de la série Lupin. Je ne sais pas si tu l'as vu, Quentin.
Ouais.
Lupin, donc, c'est la série avec Omar Sy qui cartonne sur Netflix depuis sa sortie en janvier 2021. Plus de 70 millions de vues en moins d'un mois. C'est énorme. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais en gros, Omar Sy joue un homme qui va s'inspirer de son héros Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur, créé par l'écrivain Maurice Leblanc pour venger son papa. Dans la série, on voit les falaises d'Étretat et la fameuse aiguille creuse de Maurice Leblanc. Et ça a eu un énorme impact sur la ville normande qui a vu sa fréquentation exploser. Il y a eu 1 million de visiteurs l'an dernier. Le chiffre d'affaires du Clos Lupin, l'ancienne maison secondaire de Maurice Leblanc, a été multiplié par 300 malgré des mois de fermeture. Alors vous allez dire, bon, bah ça c'est plutôt bon pour les commerçants. Oui. Mais ça plaît pas à tout le monde. La directrice du musée dit que c'est trop, il y a des embouteillages, les habitants ont du mal à se garer, ça râle. La mairie dit être dépassée et effrayée aussi à l'idée que bah, ça puisse faire fuir des habitants. Si vous habitez sur place, venez témoigner, on vous attend sur RMC. 5h27, c'est l'heure de découvrir qui a reconnu la voix du jour.
RMC, la voix du jour.
C'est Jean-Paul qui a reconnu la voix, enfin je pense. Jean-Paul, vous nous appelez des Bouches-du-Rhône, de où exactement?
C'est ça, je vous appelle de Trèpes, exactement.
De Trèpes, voilà, je ne savais pas comment on le prononçait. Quel plaisir d'entendre votre accent ce matin. Ça va bien?
Ouais, ça va, tranquille.
Ça va pas trop chaud? Pas trop chaud?
Non, pour l'instant, ça va. Les températures sont bonnes et clémentes, ça va.
Bon, Jean-Paul, on va réécouter la voix du jour. On aura votre réponse juste après.
Je souhaite qu'il y ait 10 000 opérations de contrôle à partir d'aujourd'hui partout sur le territoire national pour lutter contre ces actes criminels de gens qui prennent la route pour leur route et qui viennent à assassiner des enfants. Il n'y a pas d'autre mot.
Alors, de qui s'agit-il?
Gérald Darmanin.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Bravo Jean-Paul, qui a annoncé hier des renforts de police pour lutter contre ce fléau des rodéos urbains. On va en reparler juste après la story sport et le journal de 5h30. Merci beaucoup Jean-Paul. Vous savez ce que vous avez gagné tout de même, je vais vous dire votre cadeau. Donc vous avez gagné l'Icewatch Solar Power qui se recharge à la lumière naturelle et artificielle. On vous envoie tout ça. Je vous souhaite une excellente journée. Vous êtes au boulot?
Oui, j'étais obligé de m'arrêter pour vous téléphoner, mais oui, je travaille, ouais, tout à fait, ouais, tout à fait.
Bon, je suis parti
à 5h ce matin.
Bon courage, en même temps que nous, on a commencé en même temps.
On vous suit, on vous accompagne
toute la journée, c'est ça. Très belle journée à vous, Jean-Paul, et à très vite sur RMC.
La story sport.
Avec Léna Marjac. Bonjour Léna.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous.
Hier s'est ouvert en Angleterre le procès d'une ancienne star du club de foot de Manchester United, Ryan Giggs, ça se dit comme ça.
Oui.
Accusé de violence sur son ex-compagne. Demain s'ouvre à Chester, celui de l'un de nos champions du monde.
Oui, alors c'est un hasard du calendrier judiciaire. Benjamin Mendy est accusé par 7 femmes de 8 viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle. C'est un footballeur connu et reconnu, champion de France avec Monaco en 2017, champion du monde en 2018, mais on retire surtout son image en dehors des terrains. Nicolas Pelletier, journaliste RMC Sport, a enquêté sur la personnalité du défenseur.
Dans un groupe, il est souvent décrit comme l'ambianceur et ce n'est jamais bon signe pour un joueur de foot quand on est décrit comme l'ambianceur et pas assez pour ses qualités sportives. Il est addict à la fête, il pouvait prendre des jets privés et partir à l'autre bout de l'Europe pour faire des soirées avant de rentrer au petit matin, s'entraîner.
Une vidéo avait justement circulé en 2019, on le voyait en boîte de nuit. Le lendemain, en conférence de presse, Pep Guardiola, son entraîneur à Manchester City, avait réagi en expliquant que le joueur faisait ce qu'il voulait et qu'il n'était pas son père.
Le procès va se tenir pendant 6 semaines, je crois. Quelle est la défense de Benjamin Mendy?
Eh bien, le Français plaide non coupable. Il nie les 10 chefs d'accusation. Ses avocats ne souhaitent pas prendre la parole avant la fin de la procédure. On a donc très peu d'informations. Benjamin Mendy n'a plus joué de match depuis août 2021. Manchester City, qu'il a recruté pour plus de 61 millions d'euros en 2017, l'a suspendu dès le début de l'affaire. On avait tenté d'avoir quelques nouvelles auprès de Pep Guardiola à l'époque au micro de RMC Sport.
Bonjour Pep, une question autour de Benjamin Mendy. On n'a pas beaucoup de nouvelles depuis la France. Est-ce que vous avez pu lui parler et comment vous jugez la situation dans laquelle vous êtes avec lui?
Pas de réponse, un silence avant que l'on demande aux journalistes de passer à une autre question. Alors Mendy est sous contrôle judiciaire depuis janvier dernier. On connaîtra le rendu du procès le 16 septembre prochain.
Le championnat anglais a repris le week-end dernier sans lui, mais avec d'autres joueurs soupçonnés de violences sexuelles.
Oui, lors de la rencontre entre Crystal Palace et Arsenal vendredi dernier, un avion a survolé le stade avec une banderole, dégagé les violeurs du terrain. Cette phrase ciblait Thomas Partey, milieu défensif d'Arsenal accusé de viol. Alors les organisateurs du championnat anglais ont décidé de rendre obligatoire une formation au consentement sexuel pour les joueurs. Yael Mellul, présidente de l'association féministe Femmes et Libres, regrette que l'on soit obligé d'en arriver là.
Ce type d'enseignement se fait dans la cellule familiale, où on apprend à respecter les femmes. C'est extrêmement choquant de devoir apprendre cela à des adultes, à des hommes.
Et cette demande
Normalement, ouais. Évidemment, mais s'il faut en passer là par là, il faut en passer par là.
Hein. Et oui, forcément. Et justement, cette demande de formation a été portée par des associations féministes britanniques et elles aimeraient aller plus loin que chaque joueur mis en cause dans une affaire d'agression sexuelle et bien soit tout simplement suspendu par son club.
Moi, ça me semble évident. Enfin,
moi aussi.
Je sais pas.
Moi aussi, totalement.
Vous réagissez au 32-16. Merci beaucoup, Léna Marjac, pour la Story Sport.
Merci.
Léna, on te retrouve demain. Et la Story Sport, c'est à retrouver en podcast, évidemment, sur l'appli RMC. Il est 5h42.
RMC, jusqu'à 6h. Charles Matin.
Anaïs Castagna.
Et on va reparler ensemble des rodéos urbains. Parce que le jeune homme de 18 ans qui a renversé deux enfants vendredi à Pontoise a été mis en examen et écroué. Hier, le ministre de l'Intérieur a promis d'intensifier les contrôles de police. 10 000 contrôles de police mis en œuvre sur tout le territoire. Et c'est ce qu'il a dit. Comment jugez-vous la réponse de l'exécutif? Est-ce que vous pensez que ça peut permettre de freiner ce genre de pratique extrêmement dangereuse? C'est de cela qu'il s'agit. Hein. Il s'agit de la vie de deux enfants en l'occurrence. Vous nous dites ce matin au 32-16, on vous attend. Ce qui est sûr, c'est que certains élus ne l'ont pas attendu pour prendre des mesures. Reportage d'Ambre Le Poivre.
10 000 contrôles d'ici la fin du mois, l'annonce du ministre de l'Intérieur ne convainc pas François Daoust, élu à Pontoise, où deux enfants ont été grièvement blessés par une motocross.
Est-ce qu'il aura les effectifs qui permettront de répondre à cette densification des contrôles? Les interventions ne se font pas à chaud, on ne va pas créer un suraccident. Donc 10 000 contrôles, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir 10 000 interpellations et 10 000 condamnations.
Dans le Nord, la commune d'Halluin n'a pas attendu l'intensification des contrôles. Le maire a interdit la circulation des quads sous peine d'une amende de 150 euros et ça marche, selon l'adjoint au maire Jean-Emmanuel Agnuret.
L'utilisation de cet arrêté et la présence de notre police municipale ont permis justement de baisser sensiblement ce fléau.
Si certains renforcent la répression, d'autres optent plutôt pour la prévention. C'est le cas des mairies de Vaux-en-Velin et de Lyon qui ont fait appel à Mehdi Ben Safi, président de l'association Synergie Family.
Le premier objectif, c'est de venir casser cette culture. Les passionnés de moto qu'on trouvait dans le cadre de rodéo urbain leur proposaient d'aller sur des circuits homologués.
La peine pour un rodéo urbain peut aller jusqu'à 5 ans de prison et Gérald Darmanin souhaite encore renforcer la répression.
En fait, c'est un délit passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende, mais des sanctions plus importantes peuvent être décidées en cas de pratique collective, si les auteurs ont consommé de l'alcool, de la drogue, et s'ils n'ont pas de permis. Est-ce qu'il faut être encore plus dur que ça? Vous nous dites, là aussi, je vous attends au 32-16. Et puis ce que j'attends aussi, c'est vos témoignages, si vous vivez ce genre de situation, si vous voyez ces rodéos urbains, si vous les subissez au quotidien, venez nous raconter, on vous attend. Tiens, Damien nous appelle de Limoges, dans la Haute-Vienne. Bonjour Damien.
Bonjour tout le monde.
Bah ça va et vous?
Ça va, j'ai bientôt débouché, donc ça va aller.
Ah, c'est bientôt fini la journée là?
À 6h.
À 6h, bon bah plus qu'un tout petit quart d'heure à tenir. Et on est avec vous Damien. Damien, vous nous appelez parce que je crois que vous, vous en voyez justement des rodéos urbains.
Tout à fait, oui, oui, nous on a l'habitude, on travaille de nuit, donc forcément c'est le rodéo principalement, on va dire.
Ouais.
Donc oui, moi je quand on est dans les petites zones au travail, il y a des zones bien précises où il y a du rodéo toutes les nuits. Alors c'est interdit, c'est vrai. Alors eux, ils ont trouvé un système tout simple, c'est qu'ils vont dans un endroit où il y a personne, sur un parking où il y a pas de maison à côté. Ils font ça là-bas et bon, à première vue, ils sont pas embêtés, pas personne. Donc
Et la nuit, pour eux. La nuit.
Ah la nuit. Alors quand on dit rodéo, c'est pas forcément que des motos.
Oui, non, mais bah non. Ah bah non, évidemment. C'est pas que des motos, il y a aussi des voitures, il y a aussi des quads. Hein. Ça peut se faire avec plusieurs véhicules. Comment on fait? Comment peut-on faire pour lutter contre ce fléau? Là, on parle carrément d'un danger. On parle de la vie de deux jeunes enfants qui ont 10 et 11 ans, en l'occurrence, qui s'est passé la semaine dernière à Pontoise.
Alors, c'est vrai que donc, c'est interdit, ça doit être interdit. Déjà, un truc tout simple. Si on même ferait la peine de prison, admettons. On enlève l'amende, admettons, on s'en peut la laisser. Mais déjà, juste la prise des véhicules, destruction automatique.
Ouais.
Rien que là, déjà, ça appelle beaucoup de monde. Ou après, moi, il y a en 2015, donc ça remonte il y a très longtemps maintenant, j'avais eu un rodéo sauvage qui était arrivé sur un site où j'étais, juste à côté. Et moi, j'ai ma voiture garée plus juste où il faisait de rodéo. Donc, je suis parti voir ces jeunes-là, ils étaient une petite dizaine, ils faisaient de rodéo. Donc, j'ai discuté avec eux. Après, donc, j'ai fait appel au client, parce que c'est normal. Et on a passé un accord entre le client et ceux qui faisaient du rodéo. Le client autorisait les jeunes à faire du rodéo à une seule condition. C'est qu'ils ne dégradent pas le parking.
Ah oui, il autorisait carrément les jeunes à faire ce type de
parce
pratique.
Parce que le site est privé, donc il peut.
Pour mieux la contrôler, en fait.
Ben, en fait, le site est privé, donc il a lui. Donc il autorisait, mais au moins que ce n'est pas dégradé. Pas détruit par terre. Tout simplement. Et ça a marché pendant des années, jusqu'à ce que ce soit vendu.
Ah oui.
Mais il y a une solution, bon, je veux dire, à prendre en compte. Bon, après, à Paris, là, il n'y a pas d'habitation, c'est pas encore fait. Hein, parce qu'il y a des maisons partout à Paris.
Non, mais c'est intéressant.
Donc, c'est un avantage à
Tauvienne. C'est intéressant, Damien. Sur les contrôles, Gérald Darmanin annonce 10 000 opérations de contrôle au mois d'août. Ce sera suffisant ou pas? C'est intéressant?
Alors, les contrôles, ça dépend.
C'est une réponse en fait, c'est pas à la hauteur de la part de l'exécutif?
Alors, non, parce qu'en fait, le contrôle, c'est forme de contrôle. Qu'est-ce qu'il y a au bout du contrôle? Si on contrôle, il n'y a rien du tout au bout, ça n'a rien. Si on contrôle destruction des véhicules, c'est bon. C'est très simple. Il n'y a que ça qui peut arrêter.
Ben, et de la prévention, c'est ce que vous venez de nous raconter. Merci beaucoup, Damien, d'avoir témoigné ce matin sur RMC. Et je vous souhaite une très très bonne journée qui va bientôt se terminer. Il vous reste exactement 13 petites minutes à tenir. Voilà. Et ensuite, vous pourrez retourner à la maison et retrouver votre lit. Quelle chance. Très belle journée, Damien. Et à très vite sur RMC. Il est 5h47. Vous pouvez nous appeler, évidemment, pour réagir. Stanislas Godon, délégué général du syndicat de police Alliance, sera avec nous à 7h40 dans la matinale de Sébastien Krebs, Apolline Matin. Mais d'abord, il y aura Angèle.
Bonjour,
juste bonjour avant 6h. Bonjour Angèle. Tu vas nous parler d'une star qui est partie
hier soir, Olivia Newton-John. Alors vous la connaissez sûrement pour son rôle de Sandy
dans Grease.
Exactement, on va en parler dans un instant, tout de suite. Il est 5h50, vous écoutez RMC, bon réveil à tous. Je vous rappelle les principaux titres. L'ancien président américain Donald Trump annonce que sa célèbre résidence de Floride, Mar-a-Lago, a été perquisitionnée par le FBI. D'après les médias américains, l'intervention relève d'une enquête sur la mauvaise gestion de documents classifiés qui ont été envoyés à cette résidence. On y reviendra 40 ans après l'attentat terroriste du restaurant de la rue des Rosiers qui a fait 6 morts, 22 blessés. Le premier hommage national sera rendu aujourd'hui sur les lieux du drame. Et puis la sécheresse continue de frapper plusieurs régions françaises. Des centaines de communes restreignent l'accès à l'eau dans la journée. Des restrictions qui ne sont pas du goût de tout le monde, on peut le dire, notamment le maire de Colmar ayant obtenu le label 4 et la fleur d'or des villes et villages fleuris. Il souhaite pouvoir arroser ces massifs.
C'est un arrêté totalement absurde. Toute autre alimentation en eau est réalisée à partir de la nappe phréatique d'Alsace. C'est le plus grand réservoir d'eau en France. Donc on n'a strictement aucun problème d'approvisionnement en eau.
On l'entendra dans le journal de 6h. Avant cela, évidemment, la météo avec toi, Anthony. Sec et chaud encore aujourd'hui.
Oui, les jours se suivent et se ressemblent. Toujours pas de pluie, toujours pas de nuages, ou alors à peine un fin voile vraiment anecdotique dans le sud-ouest. Et puis toujours, toutefois, quelques orages en fin de journée sur les Alpes du Sud, les Pyrénées et la montagne Corse, donc uniquement en altitude. Et puis encore ce vent de nord-est asséchant sur la moitié nord, entre 40 et 60 km/h en rafale. Les températures encore en hausse aujourd'hui. Il fera 28 à Lille dans l'après-midi, 31 à Nice, 32 à Paris et Rennes, 33 à Bourges et Tarbes, 34 à Limoges et La Rochelle, 36 pour Bordeaux et Agen, jusqu'à 38 à Mont-de-Marsan et Cahors. Quatre départements sont toujours en vigilance orange canicule, le Gard, le Vaucluse, la Gironde et le Lot et Garonne.
Merci beaucoup Anthony, c'est l'heure de l'été d'Angèle.
L'été d'Angèle.
Bon, c'est une chronique un petit peu spéciale ce matin, chronique hommage Angèle.
Oui, à Olivia Newton-John, connue pour son rôle mythique dans le film Grease. C'est avant tout l'image qu'on a d'Olivia Newton-John, c'est avant tout celle de Sandy Olson, la sage lycéenne aux cheveux blonds devenue bouclée et laquée alors qu'elle enfile sa combi noire et son perfecto pour cette scène historique de la comédie musicale Grease et cette chanson devenue légendaire.
J'adore. Je l'avais évidemment dans la tête quand j'ai appris qu'elle était décédée.
On l'a appris
à l'âge de
73 ans, hier soir à l'âge de 73 ans. Lorsque Grease sort en 1978, Olivia Newton-John a 30 ans. Ça fait déjà 15 ans qu'elle foule les scènes, celles des télécrochets de son pays d'origine, l'Angleterre d'abord, puis les charts américains. En 1974, elle se classe numéro 1 aux États-Unis avec son premier grand succès. I'm not trying to make you feel uncomfortable. Autre ambiance. C'est d'ailleurs la même année, Anaïs, et on a tendance à l'oublier qu'elle représente le Royaume-Uni à l'Eurovision avec cette chanson Long Live Love, et elle termine quatrième derrière ABBA. Il y a aussi eu la country pour laquelle elle se prend de passion lorsqu'elle débarque aux États-Unis. Olivia Newton-John remporte même un prestigieux Grammy Award, celui de l'artiste féminine country de l'année, face à la grande Dolly Parton.
Mais ce qui change sa vie, c'est évidemment le succès du film Grise.
Oui, il faut bien se rendre compte, hein, rien qu'en France, le film fait plus de 5 millions d'entrées au cinéma. C'est un record pour une comédie musicale. Et vous voyez, hein, nous vous parlions de cette scène mythique avec John Travolta, sa combi noire moulante et son perfecto. Oui. Eh bien, la tenue originale a été adjugée aux enchères pour plus de 400 000 dollars.
400 000 dollars. En même temps, elle était canon.
Canon.
Ouais, c'est vrai. La combi, et puis elle aussi, ouais, évidemment. Pour... Donc, c'est... Grise, c'était en 78. Hein, ouais. Ouais. Bah, j'étais pas née. Et pourtant, tu vois, ça nous a quand même marqué. John Travolta a réagi au décès de la chanteuse.
Oui, ma très chère Olivia, tu as rendu nos vies tellement meilleures. Ton impact a été incroyable, a-t-il écrit sur Instagram en signant votre Danny, votre John. Danny,
ouais,
étant
Danny, c'était
son personnage,
ouais,
dans Grise.
Ah, je dois te dire, Fabien, notre réal, danse.
C'est des hanches.
Mais oui, en studio, en régie. Mais c'est vrai que ça donne envie de danser. Elle luttait depuis 30 ans contre un cancer du sein.
Oui, un vrai combat pour lequel elle avait créé la fondation Olivia Newton-John. Ce cancer aura fini par l'emporter après des années passées à enchaîner les albums. Olivia Newton-John a préféré rester sur sa carrière de chanteuse après Grise en dévoilant une quarantaine d'albums de country et de pop rock ces dernières années.
Une quarantaine, une quand quarantaine. Même. Non, mais je savais, je savais pas qu'elle avait eu. C'est vrai qu'on la résume au film Grise, mais
en fait,
final.
Pas du tout.
C'est plus que ça. Merci beaucoup,
avec
Angèle.
Plaisir.
On a appris beaucoup avec toi ce matin. C'est l'heure de retrouver Sébastien Krebs, qui, je suis sûre, a regardé Grise. Salut Sébastien.
Bien sûr. Salut Anaïs, salut Angèle. Salut,
et qui a dû faire la chorégraphie quelques lors de soirées arrosées.
Je vous attends chacune avec votre blouson de cuir. Okay, on va rester dans l'ambiance de Grise ce matin.
Pas sûr.
Pour rendre hommage à Olivia Newton-John. À tout de suite, Apolline Matin démarre dans un instant sur RMC et sur RMC Story, canal 23 de la TNT. À tout de suite.